au grec Stéphanos Tsitsipas. Il est bientôt 9h10 du matin ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Betty Chomanga.
Radio G, 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour. Aujourd'hui, mythologie rime avec fantaisie. Si vous voulez revoir vos classiques sans effort et avec la version très contemporaine de Jules, écoutez cette émission dans laquelle les 5 premiers chants, à l'instar de ceux de l'Iliade et de l'Odyssée, sont traversés de nos préoccupations actuelles. Jules est aussi l'auteur de la série sur Arte et associé à Charles Pépin d'une série de BD. Il a publié cette désopilante histoire de l'Olympe en septembre 2022 aux éditions du Seuil.
Commence l'épopée. Tu crois, lecteur, avoir choisi d'ouvrir ce livre, en parcourant ces lignes, jouir de ta liberté. Mais tes désirs, tes actes, tes songes, tes pensées sont dictés de plus haut par d'autres volontés.
Ici, point de Mossad, de Chine, de CIA. Pour te manipuler, point d'Alien, ni de GIEC, point d'Illuminati, ni même de Big Pharma. Car dans ce complot-ci, nos maîtres sont des Grecs.
Mais regarde, déjà tu poursuis ta lecture. Je t'amène là où les dieux t'ont convoqué.
Olympien, barbu, tout bruissant de colère, déesse scintillante qui joue ta vie au dé, titan, monstre, héros, fruit de métamorphose, ils sont depuis toujours maîtres de ton destin.
Ovide, Hésiode, Sophocle, Aristophane, Homère ont raconté souvent en des chants magnifiques ces tragédies sanglantes, ces aventures magiques, l'amour, la mort, le sexe, éternel best-seller.
Tu les connais, ces dieux, et leur mythologie. Depuis toujours, ils fondent notre civilisation. Tu les crois disparus ? Pas si sûr. Attention, ils n'ont pas déserté le monde d'aujourd'hui.
Zeus au supermarché, Hercule à Pôle emploi, Athéna sur Arte, Apollon sur Tinder, Œdipe chez le psy, Narcisse youtubeur, Achille, Ulysse, Hector qui font des plans à trois.
Pénélope qui regarde Faites entrer l'Odyssée, Dionysos au bistrot, Thanatos ou Alpheste, avec les toisons jaunes, Jason qui manifeste le taramavirus en Méditerranée.
C'est la meilleure façon de comprendre notre monde que d'écouter ce chant qui nous rend plus humains, plus libres, plus vibrants en ces temps incertains. Et nos vies, ô lecteurs, peut-être plus profondes.
Chant 2, où le rusé Ulysse, qui commande l'armée grecque, tente d'abréger le siège de la ville de Troie. Regardez les fiers Achéens. Les voilà dans leur campement, en guerre contre les Troyens, pour venger l'honneur du roi Ménélas, dont on a traîtreusement enlevé l'épouse. Bannière flottant au vent chaud d'Asie mineure, tente recouverte de la poussière des combats, guerrier armé de pied en cap, mais le regard voilé de lassitude. Au loin, la forteresse de Troie, avec ses hautes murailles, toise ses braves, accourus d'au-delà des mers au secours de la fierté grecque. Autour de lui, Ulysse, chef d'une armée de 80 000 hommes, a convoqué ses meilleurs soldats. L'heure est grave.
Bon, alors, ça fait 10 années qu'on essaie de pénétrer dans la ville de Troie pour récupérer Hélène qui a été enlevée. Manifestement, on a un léger problème d'efficacité. Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour faire avancer le schmilblick ?
Juste un petit doute. Hélène était peut-être la plus belle des femmes au départ, mais coincée en ville 10 ans sans pouvoir sortir faire du sport et nourrie de chips au tarama en regardant des feuilletons turcs, elle doit plus forcément valoir le coup, non ?
Non, mais c'est pas là la question, là. On doit trouver un moyen de remporter une victoire militaire. Punto finito.
La voix du jeune Épéios, vaillant descendant des Haques, dont l'ingéniosité n'a d'égal que son habileté au pugilat, s'élève aigrelette de l'assemblée des combattants.
Monsieur Ulysse ?
Oui, Épéios ?
J'ai regardé un tuto d'Athéna sur olympe.org, comment construire un cheval de bois creux super ressemblant.
Le visage d'Ulysse s'éclaire, soudain caressé par une lueur d'espoir.
Bon, là, en l'occurrence, c'était pour faire une piñata d'anniversaire pour un des fils de Zeus, mais on pourrait peut-être s'inspirer de ce truc pour pénétrer dans la ville par ruse.
Ah, ben voilà un truc qui change un peu.
Les guerriers s'ébrouent, prêts au combat, et les esprits s'échauffent.
Ok, mais pourquoi on ferait pas plutôt une Porsche Cayenne géante ?
Ou une Jaguar géante avec toutes les options.
Ou pour être plus discret, on peut faire plein de petites Twingo en bois creux et on se répartit chacun à l'intérieur.
Eh oh, ça suffit là. Athéna propose cheval, on va faire cheval. C'est bien, c'est écolo, on a 4000 ans d'avance sur la COP21. Et puis en termes d'image de marque, ça nous valorisera. Parce qu'après la destruction totale de la ville et l'extermination des Troyens, on va être mal.
La nuit est tombée sur la plaine. Le ciel sans lune, molletonné de brume et la stridulation intermittente des grillons, berce le sommeil des Troyens. Mais l'oreille attentive du guetteur pourrait surprendre des pas furtifs escaladant les barreaux d'une immense échelle. Un à un, les guerriers grecs pénètrent dans le ventre d'un cheval de bois fantastique monté sur des roues colossales. Du haut des murailles laiteuses de la ville de Troie que l'on devine au loin, personne n'aperçoit le traître présent, assemblé par les meilleurs charpentiers achéens.
Hop, 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 allez, 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 les gars, on se serre un peu dans le fond.
Aïe, tu m'écrases le talon.
Oh, c'est bon la chochotte, là, fais pas ton Achille.
La porte s'est refermée sur les guerriers d'élite, maintenant entassés avec leur barda dans le ventre du cheval. Épée de bronze à double tranchant, javelot acéré, armure luisant dans la pénombre et les odeurs camphrées de l'huile oignant les gantelets de cuir. Dans l'attente du massacre, les soldats échangent quelques propos légers.
Non mais là c'est typique des plans à la Athéna.
Ah ouais? Bah tu te souviens du bizutage qu'elle avait fait aux Argonautes?
Eh ben oui, le Athéna Loo Challenge, ce truc de ouf, faire rentrer en pleine tempête 50 guerriers dans les toilettes du navire.
Messieurs, s'il vous plaît, on baisse d'un ton. On va nous pousser devant les portes de Troie. Alors, un peu de discrétion. Si l'ennemi s'aperçoit qu'on est à l'intérieur du cheval, on est reparti pour un siège de 10 ans. Et je ne sais pas, vous, mais moi, l'Iliade, je commence à trouver ça un peu longué.
Soudain, le moyeu des roues commence à gémir et c'est tout le cheval qui se met en mouvement. La bête de bois et de métal s'ébranle, réduisant de toute sa masse les rocailles de la plaine en poussière, comme la meule écrase le blé. Le temps semble court. Déjà, le cheval de bois a été allé devant les portes de la forteresse endormie. Les vibrations cessent d'un coup et le silence s'installe. Maintenant, l'attente du petit jour.
La gueule des mecs quand on va tous sortir pour les massacrer.
Eh, y a quelqu'un qui filme au fait?
En principe, y a Homer qui met tout sur son Instagram.
Des mecs qui attendent entassés dans un bus avec des boucliers et des casques. Sérieux, vous avez pas l'impression qu'on est des CRS garés à côté d'une manif près de République?
T'es con, Ulysse.
Les heures s'écoulent, désormais plus personne ne parle. On perçoit le souffle accordé des respirations des guerriers.
Bon, c'est long quand même.
Soudain, un bruit sourd. L'habitacle se met à tanguer.
Oh purée! Ça bouge là! Bah, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
Dans un craquement monstre, le cheval de bois est ébranlé et les soldats d'Ulysse sentent soudain qu'ils ne sont plus reliés au sol.
Eh, mais ils nous déplacent ou quoi?
Ulysse se lève avec précipitation et se rue vers un hublot latéral dissimulé dans le flanc du cheval. Il jette un œil vers l'extérieur et retombe aussitôt sur son banc, accablé, et sa colère éclate.
Ah mais ouais! Ah mais ouais, mais j'en étais sûr! Quel con! C'est fou ça quand même! Je le leur avais dit pourtant, mais comme d'habitude, personne ne m'a écouté. Pas sur le bateau, devant le portail.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ce qu'Ulysse a vu est certes consternant. À l'aide d'une sangle passée sous son ventre, soulevant le cheval au-dessus du sol, une grue vient de charger le monstre de bois sur la remorque d'un véhicule immense.
Les Troyens ne plaisantent pas avec les interdictions de stationner.
Le camion fourrière enlève le cheval au loin, tandis qu'Ulysse évalue déjà le montant du PV.
Chant 3, où le mouvement hashtag MeToo vient bouleverser le patriarcat mythologique. C'est la fin du jour sur Olympie. Déjà, la chaleur est moins pesante. Les cigales féroces qu'à midi l'on croyait invincibles ont fini par rendre les armes. Au rendez-vous des Atrides, à l'heure où les faunes vont boire, les clients habituels se pressent autour du premier houzeau du soir. Accoudés au comptoir, un groupe s'esclave, trinque, s'amuse. Des divinités descendues de l'Olympe pour l'apéro, des dieux, des vrais, des poilus. Perché sur un tabouret, le dieu Pan monopolise l'attention de ses collègues, intarissable sur ses exploits de la veille.
On s'est fait une de ces soirées hier avec Dionysos.
5 nefs en mini-toge qui débarquent dans le club, on était comme des fous.
Il y en a qui ont essayé de s'échapper, mon vieux, elles sont pas allées loin. Elles sont toutes passées à la casserole.
Bon, il y en a une qu'on a dû métamorphoser en arbre parce qu'elle se débattait trop quand même.
L'arrivée de Zeus affichant une mine grave interrompt ses rhodomontades.
Ah, bon sang, vous êtes là? On est mal, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des déesses qui viennent de lancer un hashtag pour dénoncer les violences sexuelles dans la mythologie. Balance ton pan.
Dionysos, qui en a vu bien d'autres, ne semble guère impressionné. Encore un truc d'hystéros.
Non, c'est sérieux là. Si on ne veut pas se retrouver tricard dans tout le bassin méditerranéen, il va falloir faire super gaffe.
Les dieux affichent une moue sceptique, mais Zeus conserve un air inquiet.
que seule une deuxième tournée commandée par le Minotaure parvient finalement à dissiper. Dès le lendemain, pourtant, l'agora est noire de monde. À l'appel d'un collectif de femmes grecques contre les violences sexistes et sexuelles, tout ce que la mythologie compte de déesses, d'héroïnes et de mortelles victimes de métamorphoses abusives ont afflué pour protester contre l'impunité dont bénéficient les agresseurs depuis les premières heures du patriarcat antique. Les manifestantes peuvent apercevoir, juchées sur une estrade, les silhouettes familières d'Athéna, d'Artémis ou d'Héra, flanquées de nymphes, de naïades ou de sirènes de tous âges et de toutes conditions. On peut distinguer Méduse et sa chevelure bruissante de serpent, Pénélope, qui a pour l'occasion délaissé sa tapisserie, Cassandre, Hélène, Antigone. Aucune figure féminine ne manque à l'appel. Une impressionnante banderole barrée d'un hashtag MeToo borde la tribune. Héra est la première à prendre la parole.
Il se passe quelque chose dans la mythologie gréco-latine.
Dès ses premiers mots, une clameur parcourt l'assistance.
Avec la libération de la parole, les femmes sont en train de mettre fin à la culture du harcèlement et du viol enraciné dans la civilisation classique.
Grâce à quelques nymphes et quelques mortelles courageuses, on a enfin pu mettre des mots sur ce scandale.
Acclamation de la foule! Se succèdent ensuite des témoignages de femmes qui montent à la tribune, une glaçante litanie d'abus et de violences, ponctuée de cris de colère et de mots de réconfort.
« Moi, je voulais pas coucher avec Zeus, mais il s'est transformé en pluie d'or et il est entré de force dans ma chambre. Apollon a essayé de me violer et j'étais obligée de me transformer en laurier. Alors, au début, j'avais honte. Je me disais, Daphné, qu'est-ce que tu vas raconter à tes copines ?»
Il faut que les hommes arrêtent de rejeter la faute sur nous. Genre, elle m'a provoqué. C'est elle qui est venue tourner autour de mon bateau.
C'était sans arrêt des remarques sur ma tenue vestimentaire, des SMS déplacés. Sur l'Olympe, les dieux faisaient des compétitions de ceux qui allaient se taper le plus de déesses.
Ça a mis du temps pour que je comprenne que si Héphaïstos s'était jeté sur moi et avait éjaculé sur ma jambe en provoquant la naissance d'Erichthonios, ça n'était pas quelque chose de normal.
Cela faisait tourner la tête, enrager les cœurs. Mais toutes ces femmes, ensemble, debout, réunies pour la première fois dans une même colère et mettant un instant de côté leurs antiques querelles, dégageaient une puissance qui semblait pouvoir tout renverser sur son passage. Ce jour était historique. Désormais, plus rien ne serait comme avant dans la mythologie. Convoqué par Zeus dans la grande salle de l'Olympe pour un exceptionnel et précipité grenelle de la mythologie, les principaux représentants masculins et féminins du Panthéon ont accepté de s'asseoir autour de la table. L'ambiance est électrique. Si les vieux dieux barbus affichent une bonhomie de façade, tous sentent pourtant cette fois-ci qu'ils ne s'en tireront pas à bon compte. On n'avait pas vu une telle fébrilité dans la demeure des dieux, au moins depuis la réunion de copropriété qui avait suivi l'expulsion des titans. Poséidon adopte d'emblée un ton d'apaisement.
« Bon, alors si nous sommes tous réunis ici, c'est pour avancer sur un problème qui est en train de saper complètement les fondements du vivre ensemble gréco-latin. »
Athéna l'interrompt sans tarder.
« Il faut que la partie masculine de notre panthéon prennent conscience que ces comportements sont intolérables aujourd'hui.
Trop longtemps, on a considéré que c'était normal. »
Face à son épouse, Zeus tente maladroitement de se défendre, mais les déesses sont vent debout.
« On a quand même une mythologie irréprochable sur la parité. 12 dieux sur l'Olympe, 6 hommes, 6 femmes. Franchement, on ne peut pas faire mieux. »
Ouais, enfin... Il y a plein de déesses qui ont des postes subalternes, genre Hestia. Et puis, c'est l'arbre qui cache l'Odyssée. Combien de femmes chez les Argonautes? Combien de femmes au conseil d'administration d'Arès Industrie?
De toute façon, Aphrodite, on ne parle pas que de la parité. Là, on est en train de dénoncer des violences encore plus graves.
Oui, c'est vrai, d'ailleurs.
Bon, je crois qu'on a compris, on ne va pas non plus se lancer dans une chasse aux sorcières. Qu'est-ce que vous proposez maintenant pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de situation?
Déjà, vous allez arrêter de parader avec vos symboles phallocentriques. Foudre, trident, marteau, tout ça c'est terminé.
Mais c'est pour le boulot!
Ensuite, on attend de vous une conduite irréprochable. Plus de harcèlement, plus de viol, plus de métamorphose limite pour obliger une femme à avoir des rapports non consentis.
Le dieu Pan, resté muet, lève timidement la patte et d'une voix chevrotante s'inquiète alors soudain.
Ça s'étend aussi aux mortels ?
Tandis que Pan est évacué manu militari par une Artémis fulminante, les dieux masculins échangent un regard de consternation. Les voilà maintenant assis gentiment dans leur salon, ces conquérants du sexe, ces insatiables dieux devant lesquels toute volonté ployait. D'un poste de radio s'échappe de la musique classique, une sonate pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Apollon a acheté des macarons. Pour rompre le silence, Poséidon propose à la ronde encore un peu de thé vert. Zeus ne desserre pas les dents.
On se fait chier.
À la radio, on passe maintenant du Schumann. Pan finit par exploser, les poils hérissés, les narines dilatées, il saute de son fauteuil théâtral et plante ses sabots dans le tapis.
Qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, si on ne peut plus pécho pendant l'éternité, autant se tirer une balle tout de suite.
La petite assemblée lève un œil éteint vers son compagnon d'infortune. Rien ne semble pouvoir la tirer de son accablement. Mais une lueur d'acier apparaît dans la prunelle d'Arès. Se redressant sur le canapé, le dieu de la guerre a soudain une idée qui tire enfin les dieux de leur torpeur morne et rallume leurs regards.
Et si on essayait de détruire l'humanité ? Où Thésée, en guerrier intrépide épris d'une princesse crétoise, affronte le danger au cœur du labyrinthe. Depuis combien d'heures l'intrépide Thésée erre-t-il dans ce gigantesque labyrinthe ? Ce n'est pas que le courageux Athénien soit absolument pressé. Il a traversé la Méditerranée pour se rendre en Crète après tout. Mais accroché à l'écran de son GPS, il sent peu à peu poindre un certain agacement.
In 100 meters, turn to the right.
To the right. Ils sont malins, eux. Il n'y a pas de right, là.
Turn to the left.
Ah bah, faut savoir.
Go backwards.
Pourquoi il me parle anglais, ce truc ? D'ailleurs, elle est où la version grecque ?
L'on doit ici vous confier que Thésée, bien qu'héritier de sang royal et puissant guerrier, n'a jamais été doué en technologie. Il pianote au pif sur l'écran pour configurer les langues du GPS en espérant un résultat.
Darbis maître, bépichit berast.
Oh non, c'est pas possible. Maintenant, ça me met la version perse.
La sonnerie bossa nova de son portable retentit. Il n'a toujours pas réussi à sélectionner la sonnerie Zorba, le grec, qu'il aime bien. Affichant un numéro masqué, le héros athénien décroche agacé.
Thésée à l'appareil.
Il reconnaît la voix chevrotante de son vieux père. Mais depuis quand il est masqué, lui ?
Allô, mon grand, c'est Thésée. Comment ça va ?
Ça va, papa, mais je suis coincé dans un labyrinthe en Crète. Alors, si tu veux, je...
En Crète ? Mais ça va me coûter une fortune en communication, ça.
Non, mais t'inquiète, c'est moi qui paye, quand je suis à l'étranger.
Et il est quelle heure, là-bas ?
Papa, on est en pleine antiquité grecque. Il n'y a pas de décalage horaire entre Athènes et la Crète.
Bon, et tu travailles bien ?
Bah... Tu es peut-être le roi des Athéniens, mais moi je suis le roi des cons. J'ai accepté d'aller tuer le Minotaure au fond d'un labyrinthe construit par Dédale. Il y a zéro signalisation. Et en plus, le réseau est vraiment pourri.
Ah oui, bravo, c'est bien ça. Écoute, mon grand, je voulais te dire de ne pas trop en vouloir à ta belle-mère. Elle regrette beaucoup d'avoir essayé de t'empoisonner. Tu sais comment est Médée, jalouse comme un poulpe.
Ouais. Enfin, ça fait quand même la troisième fois.
Oh, tu es injuste, là.
Sans compter la fois où elle nous a servi du tarama avarié et qu'on a dû faire venir Asclépios à 2h du matin pour nous prescrire des antihistaminiques.
Non, mais tu verras plus tard si tu te remaries. On devient plus tolérant avec les petits défauts de l'autre. D'ailleurs, comment ça se passe avec ta nouvelle petite copine, Ariana? Elle est gentille avec toi?
Ariane, pas Rihanna. Bon, écoute, papa, j'ai pas trop le temps, là. Hein. Je suis complètement paumé, le GPS a planté, et... ça y est, c'est elle qui me rappelle. Justement, je te laisse.
Tu lui transmets le bonjour des papa Égée. Tu lui dis qu'elle est la bienvenue à Athènes si elle veut venir passer un week-end et...
Thésée raccroche au nez de son père pour prendre l'appel de sa fiancée. Il ne s'agirait pas de la rater une fois de plus.
Oui ? Allô ? Ariane ? Ah purée, c'est pas trop tôt. Je t'ai laissé 15 messages.
Oui, ben c'est bon, j'avais plus de batterie. Tu es où, là ?
Ben j'en sais rien. Il y a un mur à droite, il y a un mur à gauche.
Non, mais tu m'aides pas du tout, là, Thésée. Trouve un truc plus précis.
Thésée tâche de masquer son agacement. S'efforçant de trouver un repère au milieu des hauts murs qui l'enserrent, il aperçoit l'image du dieu des messageries et des voleurs allongé lascivement, son intimité dissimulée par un sac à main de luxe.
Je suis devant une pub Hermès.
Ah oui, d'accord. Non, c'est pas du tout la bonne partie du labyrinthe. Il faut revenir sur tes pas et tourner au niveau du rond-point.
Franchement, c'est casse-pied ton système de guidage à distance.
Non, mais imagine juste comment c'était avant qu'on invente le sans-fil.
On se débrouillait, c'est tout.
Et sinon, tu t'es décidé à parler à mon père pour le mariage ?
Attends, Ariane, c'est pas le moment, là. Je suis au rond-point. Je fais quoi, maintenant ?
Essaie de repérer le garage du roi Midas. Et ensuite, tu... Juste avant le... Et puis...
Et attends, je ne comprends rien. Répète. Je ne t'entends plus. T'es où ? T'es dans la salle de bain ou quoi ? Ariane ?
Rien à faire. La voix d'Ariane est hachée. Thésée jette un œil à son écran.
C'est la meilleure. Il n'y a carrément plus du tout de réseau.
Bras tendu, voici le héros qui essaie de changer de position pour capter une ou deux barres de réseau. Il a beau se contorsionner, les hauts murs du labyrinthe bloquent les connexions. Une ombre massive s'étend soudain à ses pieds. Thésée lève les yeux et découvre avec effroi la silhouette massive du Minotaure qui le fixe froidement en soufflant avec ses naseaux. La voix du monstre, caverneuse, déterminée, s'élève dans la solitude du terrifiant face à face.
« Un problème avec le wifi, monsieur Thésée ?»
Gorge nouée, jambes tremblantes, le guerrier grec tente tant bien que mal de parlementer.
Vous allez rigoler. J'étais en pleine partie de Pokémon Go et je suis rentré dans le labyrinthe pour capturer un Pikachu. Alors,
Le Minotaure ne le laisse pas poursuivre et se jette sur sa proie. Les mâchoires du fauve se referment sur l'imprudent en un craquement terrible. Lorsque le monstre regagne sa tanière d'un pas pesant, il ne reste qu'un lambeau de tunique et le téléphone portable de Thésée gisant au sol, au milieu d'une mare de sang. Le silence qui suit le massacre est rompu par des notes de bossa nova.
Oui, Thésée, mon chou, c'est Ariane. Bon, rappelle-moi quand tu auras ce message. Je t'ai envoyé une photo d'un atrium néoclassique très sympa pour la soirée du mariage. Tu me diras ce que tu en penses. Bisous, bisous, bisous.
In 40 meters, turn to the right.
Où Œdipe, qui ignore encore sa véritable identité et la malédiction qui frappe sa famille, se lance dans un jeu dangereux. Midi en Grèce, à l'ombre de la treille où un jasmin tiède aux molles fragrances s'enroule, un jeune homme est assis drapé dans une tunique de soie grège. Attentif, concentré, il fixe le transistor posé sur la table. Depuis sa tendre adolescence, le prince Édipe ne manque jamais son programme radiophonique préféré. Tandis que l'animateur dévide des questions aux participants d'un jeu d'énigmes, Édipe s'échauffe et encourage les joueurs à distance, comme on le fait à l'hippodrome avec les chevaux de course. Le candidat du jour est le vaillant Thésée, un Athénien ayant passé haut la main les épreuves de sélection. Comme à chaque fois, la pieuse Mérope a préparé le déjeuner pour son fils adoré et pour son époux, le noble roi Polybe, souverain de Corinthe.
Œdipe, à table ! Œdipe !
Le jeune prince veut écouter la fin du premier tour de questions.
Une minute !
Le roi Polybe, doux et chenu, marmonne dans sa barbe avec une indulgence toute paternelle.
Il est encore en train d'écouter le jeu des mille oboles.
Oui, mais ça va refroidir.
Le sphinx qui anime l'émission de radio a le chic pour donner à son jeu une tonalité joviale et fraternelle qui fait le succès de ce programme depuis les tout débuts de la mythologie. Édipe l'adore, même s'il lui reproche parfois d'être un peu trop complaisant avec certains candidats. Aujourd'hui, cependant, les questions soumises par des auditeurs de tout le bassin méditerranéen ne sont pas trop corsées.
Alors, énigme numéro 5, c'est une question rouge qui nous est envoyée par Marilyn Sophocle de Thessalie-sur-Argens. Vous êtes prêts ?
Prêt.
Mon mari a occupé des fonctions importantes à Ithac.
Édipe lève un sourcil amusé et répond à l'adresse du poste de radio avant même que le sphinx ait énoncé la fin de l'énigme.
Pénélope.
Un ami d'origine perse lui a offert des toges sur mesure qu'il a finalement rendues au terme d'une polémique relayée par des bardes malhonnêtes.
Édipe se tortille sur sa chaise, agacé par la lenteur du candidat. C'est tellement évident.
Pénélope, je te dis.
J'ai été rémunérée comme assistante à la mairie de Sablé-sur-Sparte pendant toute l'Antiquité, sans qu'aucun mythographe n'ait été capable de fournir une preuve de cette participation à l'histoire gréco-latine.
Édipe ne tient plus et se lève pour apostropher le transistor.
Mais réponds, il est complètement tébin celui-là.
Je suis...
Manifestement, le candidat athénien n'est pas très au fait de la mythologie. Mais le carillon qui tintinabule annonce la fin du compte à rebours. Il faut maintenant répondre.
J'hésite. Je propose Iphigénie.
On entend une rumeur de déception traverser le public de l'émission.
Iphigénie ? Pas du tout. C'était Pénélope, évidemment, épouse d'Ulysse et mère de Télémaque, lui-même employé comme attaché parlementaire pendant la guerre de Troie, alors même qu'il était en stage à Bruxelles. Ah, désolé, monsieur Thésée.
De toute façon, j'aurais jamais trouvé. Quel but, celui-là.
Édipe s'est rejeté en arrière sur sa chaise, consterné, tandis que le sphinx donne avec bonhomie congé à son candidat.
Vous repartez tout de même avec un exemplaire de l'Odyssée, offert par le jeu des mille oboles. Et Marilyn de Thessalie-sur-Argens gagne, grâce à ses questions, le dernier album d'Ovid Guetta, qui s'intitule « Ma métamorphose ».
Depuis la salle à manger, Édipe entend la reine Mérope qui s'impatiente.
« Édipe, à table !»
Ah, ils sont nuls, c'est pas possible.
La semaine prochaine, nous serons à Péloponnèse, le 12 à Épidaure, le 13 à Corinthe. Venez nombreux pour participer à notre sélection.
Le prince se lève enfin pour éteindre le poste de radio en rouspétant et gagne la salle à manger. Mérope sert généreusement Édipe, amusé autant que dérouté par la passion radiophonique qui anime son fils bien-aimé.
Non mais pourquoi ne pas participer à l'émission ? Tu as entendu, puisqu'ils viennent bientôt à Corinthe. Tu devrais t'inscrire. Polybe a raison.
Polybe pointe vers Édipe un pilon de poulet à moitié rongé.
Tu as toujours réponse à tout. Et en plus, tu peux gagner 1000 oboles. C'est pas rien. Si tu sais pas quoi en faire, moi je te les prends pour en faire la toiture de notre palais. Hein.
À la pensée de participer, le regard d'Édipe se perd soudain dans un bienheureux lointain et un sourire illumine son visage de prince grandi trop vite. La salle des fêtes de Corinthe est pleine à craquer. Un public de Grecs enthousiaste est venu soutenir leur champion pour cet enregistrement en public du jeu des mille oboles. C'est un événement de taille pour la petite cité qui n'en avait pas accueilli de cette ampleur depuis l'élection de Miss Péloponnèse. C'est sous des applaudissements nourris que le sphinx prend l'antenne face à un Œdipe qui dissimule à grand-peine sa vive émotion.
Nous accueillons aujourd'hui un nouveau candidat, Monsieur Œdipe Bellaios. Bonjour Œdipe.
Bonjour.
Alors, vous exercez une profession intéressante, très caractéristique de cette région, je crois, puisque vous êtes prince de Corinthe.
Tout à fait. En fait, c'est lié à mon père, qui est roi de Corinthe. Et donc, je me suis mis prince à mon compte.
Une sorte de PME familiale, en quelque sorte.
Tout à fait.
Alors, nous commençons avec une première question.
Le public retient son souffle. Une heure plus tard, la salle est incandescente. La foule trépigne, hoquette, ne peut réfréner la liesse que lui procurent les exploits du prince Oedipe, incroyable candidat, qui, tel un archécite, décoche sans hésitation des réponses justes et précises à chacune des énigmes. Le sphinx lui-même ne cache plus son admiration.
Mais tout à fait ! Réponse exacte. J'ai 4 pattes le matin, 2 le jour et 3 le soir. La réponse est l'homme. Bravo ! Écoutez, vous avez déjà répondu à 14 questions avec succès. C'est un record dans l'émission. Mais vous pouvez tout remettre en jeu avec la question noire. Et visez le...
Le cœur du public bat à tout rompre lorsqu'il se met à scander en cadence le traditionnel
« Banco, banco, banco !»
Oedipe garde un sang-froid admirable et reste concentré.
Je dis « banco !»
Tonnerre d'applaudissements, l'exaltation est à son comble.
Alors, écoutez bien. J'ai été adopté par un roi et une reine qui ne m'ont jamais avoué qu'ils n'étaient pas mes vrais parents.
Oedipe amuse son public et s'aventure à faire de l'esprit. Mais pour la première fois, il sent poindre une légère inquiétude.
Il y a du monde.
Je vais tuer mon père et coucher avec ma mère.
Quelle horreur!
C'est une diversion que personne pour l'heure ne remarque. Mais la confiance du jeune prince se lézarde soudain, tandis que vacille la belle assurance de son regard. Et si cette fois, précisément, à l'instant solennel de la question noire, il ne savait pas répondre au sphinx qui lui fait face, en monstre grimaçant.
« Ma fille, Antigone, va être emmurée vivante pour avoir voulu enterrer son frère contre la volonté de son oncle. »
Un silence de plomb s'abat soudain sur l'assistance. Personne n'ose croire qu'Oedipe puisse être pris en défaut. Mais alors, pourquoi cette hésitation? Pourquoi ce timbre étrange lorsque s'élève la voix du champion après que le dernier tintement du carillon a retenti?
Kim Kardashian?
Eh bien, pas du tout. La réponse était vous-même.
Un mugissement de dépit gonfle les poitrines à l'unisson. Le sphinx enchaîne, habillant d'habiles trémolos sa voix radiophonique.
Eh oui, Oedipe, fils de Laios et de Jocaste, adopté par Polybe et Mérope, parricide et incestueux. Oh, quel dommage!
Oedipe tourne de l'œil et s'écroule sur l'estrade. La salle éberluée par le dénouement funeste du jeu y prête à peine attention. Le sphinx à l'œil pétillant poursuit sa tirade à l'adresse d'un Oedipe agité de spasmes convulsifs.
Bon, eh bien malgré tout, le jeu des mille oboles vous offre la collection des œuvres de Sigmund Freud, ainsi qu'une place pour une consultation gratuite d'un psychanalyste dans la région du Péloponnèse. Quant à nous, je vous donne rendez-vous à la Chapelle sur Phèdre pour une nouvelle émission de notre jeu, et je vous dis...
Et par cet atavisme archaïque qui caractérise les foules méditerranéennes, c'est tel un chœur antique que le public reprend à l'unisson.
À lundi, si le cœur vous en dit.
Chers auditeurs, si votre culture de la mythologie grecque ne s'est pas approfondie à cette écoute, nous vous recommandons bien sûr la version originale d'Homère. Cependant, si vous avez ri ou souri, continuez la lecture de cette version de Jules, qui finalement contient quelques critiques de notre époque 2.0, dont il est salutaire de se distancier. Cette émission a été lue et préparée par Anne, Patrick, Paul et Guylaine, enregistrée et montée par Claude Michel. La musique est celle du film Zorba le Grec, composée par Mikis Theodorakis.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5.
ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.